Salut, c'est Flo. Une fois n'est pas coutume, nous démarrons par une petite annonce. Le samedi soir du 15 septembre aura lieu à Lyon le Lyonacolo, une soirée qui devrait réunir en toute décontraction des lecteurs, des auteurs et nous l'espérons des éditeurs français et italiens. Si vous êtes intéressé, si vous voulez plus de détails, rendez-vous sur notre page internet lyonsf.podomatique.com. Et maintenant, place au podcast.
Les lions de la SF.
Le repas fut plus guindé qu'à l'ordinaire. Visiblement, le prêtre ne savait que faire de la nourriture qui défilait devant lui. Il mangeait frugalement et buvait moins encore. Il y avait avec lui un mince jeune homme olivâtre au nom imprononçable de Zoriamasta. Il n'ouvrit pas la bouche de tout le repas, hormis pour picorer aussi chichement que son maître, vers lequel il jetait de temps à autre des regards partagés entre la crainte et l'admiration. Les hommes de Bradford, eux, possèdent tous un robuste appétit, de sorte que la table était copieuse. Au potage de volaille et de pois chiches succédèrent des quartiers de bœuf et de porc assaisonnés de sauces épicées, des purées de choux, de lentilles et de navets relevés d'ail et de muscade. Les esturgeons et les anguilles frites reposaient sur un lit de cresson. Les serveurs versaient de généreuses rasades d'un vin aromatisé à la sauge. Mais comme notre invité refusait qu'on emplisse son gobelet, qu'il grignotait quelques légumes du bout des dents, le bruit des mastications ralentit bientôt. La nourriture n'est pas à votre goût, s'enquit mon père, le duc Morvan. Le sourcil du prêtre sautilla. Réalisant peut-être que son attitude pouvait être interprétée comme une offense à l'hospitalité, il expliqua d'une voix neutre. Saint Colomban recommande une alimentation frugale, car ce qui alourdit le corps alourdit aussi l'esprit, et le service de Dieu, on entendait la majuscule à la manière dont il prononçait le mot Dieu, réclame le meilleur de nous-mêmes. Voilà une religion bien exigeante, s'étonna mon père. C'est vrai, admit le prêtre avec une sorte de fierté, mais c'est aussi une grande source de joie, et je suis venu vous l'enseigner. Car, mes amis, je viens dans la joie vous annoncer la bonne nouvelle. Le monde est sauvé. Je trouvais que pour un homme joyeux, son visage était singulièrement lugubre. Impassible, mon père trempait ses doigts dans une écuelle d'eau chaude. Il s'essuya les mains et répliqua calmement. J'ignorais que le monde courût un si grave péril, sans doute par quelque mouvement des astres inconnu de nos sages. C'était une gausserie larvée, personne n'ignorant le savoir prodigieux des druides en astronomie. Non, seigneur duc, il ne s'agit pas d'un dérèglement des astres, mais d'un complot contre la création. Le péril n'était que trop réel. Les esprits mauvais, les démons, avaient conspiré la destruction de toutes les créatures vivantes par la soif et la dessiccation, par le triomphe des ténèbres et de la mort. Heureusement, poursuivit Savanarole en s'exaltant soudain tandis que ses yeux noirs jetaient des flammes, le Créateur, dans son amour infini des hommes, nous envoya son fils Mitra pour fortifier son œuvre contre les entreprises du mal.
Mais c'est de la fantaisie tout ça?
Oui, c'est de la fantaisie historique.
Mais moi, j'aime pas la fantaisie. Pourquoi on fait ça? Tu me convaincs, tu vas me convaincre.
Je vais te convaincre. Eh bien, voilà. Alors, il était une fois une pauvre jeune femme,
ça aussi,
jeune, belle, intelligente, qui devait préparer un concours. Et elle a eu l'immense idée d'ouvrir l'empreinte des dieux de Rachel Tanner alors qu'elle préparait son concours.
Je crois que je la connais, cette...
Et là, horreur, damnation. À chaque fois, c'était... Encore un chapitre. Allez, je dis encore un chapitre.
Oui, je la connais, cette fille.
J'ai fini par me dire. Bah oui. Attends, une jeune fille belle et intelligente, je vois pas qui ça fait.
Bah, il y en a deux, là. Comme c'était pas moi.
Parce que impossible de me mettre au travail, impossible de le lâcher, l'horreur absolue. Et donc, j'ai fini par me dire, bon, écoute, tu lis les deux, l'empreinte des dieux, le glaive de Mitra d'affilée, et puis, comme ça, ce sera fini, quoi. J'ai passé une journée à lire les deux, et j'en garde un souvenir... absolument fabuleux, quoi. Donc, quand j'ai vu le Rachel Tanner, je lui ai dit « Oh, votre livre oh. !» Comme ça, comme je fais
donc,
de
Donc ça, c'est Rachel Tanner.
Ouais.
On ne l'avait pas encore dit.
Ah oui, c'est vrai, Rachel Tanner.
Et c'était quoi l'extrait?
C'était un extrait de l'empreinte des dieux. Donc, dans l'empreinte des dieux et le glaive de Mithra, il y a Mithra.
Oh, il y a Mithra.
Ouais.
Et c'est qui? C'est un copain Rachel Tanner?
Ah ben, peut-être qu'elle le connaît, je ne sais pas, elle ne me l'a pas dit. Non, Mithra est un dieu dont le culte a été florissant au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, donc, les livres de Rachel Tanner sont, on peut dire, une uchronie, hein, puisque dans son univers, Mithra est devenu le culte dominant, l'Empire romain n'a pas chuté. Mm-hmm. Et donc, on se retrouve en l'an 800 à peu près,
oui,
à suivre les aventures de Judith dans ce monde-là.
Ben alors, si on peut l'appeler une uchronie déjà, ça peut me plaire.
Ah, tu vois? Non, ce qui est très intéressant, c'est que comme elle a un cursus d'histoire, c'est évidemment très documenté.
Et donc, toi, tu as rencontré Rachel Tanner?
Ouais, aux Utopiales.
L'histoire, oui, a une grande importance à ce que j'écris. Hein, je suis effectivement historienne de formation, j'ai fait une faculté d'histoire. J'ai fait une maîtrise d'archéologie, j'ai fait des fouilles, donc j'ai fouillé sur du gallo-romain en particulier, mais pas seulement, un petit peu. Et puis ensuite, ben, j'ai fait comme beaucoup de gens qui devaient manger, donc j'ai passé le CAPES d'histoire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, toutes les époques en fait. À l'heure actuelle, je travaille par exemple sur la Grèce mycénienne, donc je reprends la légende d'Oedipe. Il y a toujours effectivement dans mes romans une problématique historique. Enfin, quand je dis problématique, je veux dire par là, j'aime bien évoquer des enjeux de société, de transformation, de bouleversement. Après les Mycéniens, disons vers le 12e, 11e siècle, c'est l'effondrement et le trou noir, parce qu'il y a des invasions, la civilisation s'effondre, l'écriture se perd, etc. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est l'histoire, il y a des boucles, c'est-à-dire il y a des régressions extrêmement importantes. Ça renvoie à mes deux premiers romans de passage entre l'Empire romain et ensuite eh ben, le trou noir également. Des villes qui disparaissent, la population qui diminue des deux tiers, l'écriture qui disparaît, le droit qui disparaît, etc. Si ce que je mets en avant dans mes romans sont toujours des héros de chair et de sang, il y a toujours un arrière-plan, un contexte qui explique ce que sont ces personnages, qui explique les difficultés dans lesquelles ils se débattent et qui me permet, moi, d'évoquer des thématiques qui me touchent. Pour le préhistorique, cette idée que plusieurs espèces d'hommes coexistaient en même temps est une idée absolument fascinante. Que nous ne sommes en réalité aujourd'hui que l'arbre qui cache la forêt, à savoir que nous sommes la seule espèce d'hominidée pensante, en tout cas parlante, qui existe, qu'à une époque il y en avait plusieurs. Qu'à l'heure actuelle, parmi les hominidés, ben, nous ne sommes plus que trois. Hein. Il y a nous, les chimpanzés et les gorilles, avec lesquels nous sommes très 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 proches génétiquement. Mais c'est très très peu quand on regarde en fait par l'ensemble des singes qui est notre famille. La plupart des singes sont des singes à queue et sont des singes qui sont d'une autre branche.
Et donc, elle a, j'ai pas bien compris, elle a inventé ce culte de Mithra. Je crois avoir compris qu'elle était déjà existante. Et donc, oui, elle explique comment il prend la place du christianisme?
Non, pas du tout. Nous, elle nous place dans un monde qui existe, où le culte de Mithra, qui était un des cultes de Rome, hein, c'est pas ce qui manquait, est devenu important et est devenu le dieu unique. Ce qu'il y a de sympa avec Mithra, c'est que c'est un dieu qui a une naissance miraculeuse, puisqu'il naît d'un rocher. Mm-hmm. Pas d'une femme qui n'a jamais vu d'homme.
Qui n'a jamais vu.
Oui, on a vu. Mais... Bon, comme la maman d'Anakin Skywalker.
Voilà.
Donc, il naît d'un rocher. Il sort de là tout encapuchonné et puis avec une torche et machin chose.
Ah oui, c'est vachement réaliste.
Voilà. C'est un dieu, attends. Ouais, oh.
Oui, non.
Bon. Il poursuit un taureau qui est magique, qu'il finit par tuer. Et par ça, il sauve le monde. Donc, dans le culte de Mithra, le monde est sauvé.
D'accord. D'accord. De quoi?
C'est une bonne question. Mais il est sauvé, tout va bien.
Bon, j'importe un peu.
Ensuite, il se bat contre le soleil et il triomphe. Et il finit par prendre la place du soleil dans le ciel.
Ouais. Donc, c'est
un dieu qui est quand même, disons-le, triomphant. Ce qui est important, c'est que c'était un culte à mystère. Donc, c'est pas une religion de masse.
faut vraiment rentrer par la petite porte pour être admis dans le sein des saints. Je dis admis parce qu'évidemment, de femmes, point. Et pour pouvoir faire de ce culte un culte de masse pour son uchronie,
oui.
elle a dû réfléchir à une transformation de cette religion pour le culte de masse.
D'accord. Et donc,
donc elle a admis les femmes, entre autres. Ce faisant, Mitra est devenu un dieu unique. Et comme tout dieu unique, qu'est-ce qu'il encourage ? La guerre de religion. Ta-da !
La jihad de Mitra.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des romans, un tantinet réaliste sur le plan de la violence.
Je crois qu'il y a beaucoup de violence dans la société humaine en général et à n'importe quelle époque. Ce qu'il y a, c'est que dans mes romans, cette violence se traduit essentiellement par une violence physique. Nous sommes dans des époques quand même où la vie humaine avait peu de valeur. Là, on voit la conjonction donc, de cette conception de l'Antiquité avec justement ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir le fanatisme religieux.
Les lionnes de la SF.
Bon, et donc dans tout ça, il y a des histoires, il y aura des personnages aussi.
C'est vrai que l'histoire est au cœur, l'histoire là, avec un grand H, est au cœur de son travail, mais ce qui donne corps à son travail, ce sont ses personnages.
Ce que je reproche à une certaine SF, pas à toute SF, c'est que c'est une littérature d'idées et non pas une littérature de chair et de sang. Et moi, la littérature purement et sèchement d'idées, je préfère lire une revue scientifique qui m'en apprendra beaucoup plus et par des gens, je suis désolée de le dire, mais beaucoup plus compétents, qui connaissent vraiment la question. Donc, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie que mes lecteurs vibrent avec mes personnages, j'ai envie que ce soit vivant, j'ai envie que les gens se régalent, pour le dire simplement.
Tu te retrouves complètement emporté par l'histoire, mais happé totalement. Son personnage principal, c'est une nana qui est super. Et même ses méchants sont pas uniquement méchants, ils ont leur raison. C'est en fait l'histoire de Judith qui va claquer la porte de chez elle, rapport à sa tante qui est pas très sympa. Et en fait, elle va apprendre la magie. Alors là, on retombe dans la fantasy, et très franchement, c'est le côté raté du bouquin.
Oh.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que Rachel Tanner se détache de la fantasy classique et que déjà dans le deuxième, il y a beaucoup moins de magie. Parce que bon, l'initiation, ça se fait super facilement. On devient magicienne en claquant des doigts ou presque. Enfin, c'est pas très crédible. Comme elle est partie dans l'idée d'écrire dans un genre qui lui plaisait, à savoir la fantasy, bon, bah, quelque part, ça fait partie des passages obligés.
Mais elle serait des clichés.
Voilà, ah, c'est le bon cliché, là.
Bah là, c'est tout que du Mitra, là.
Non, son dernier roman est un roman préhistorique. Il raconte...
Ben oui, justement. Voilà. Le premier roman est préhistorique, puis à la fin, elle arrivera à la science-fiction.
Ah oui, non, mais rien n'est perdu.
Je veux dire, si elle continue sur ce...
Elle se réfère à la fantasy parce que c'est ce qu'elle aime lire, et que, bah, comme elle vient de nous le dire, elle aime bien que les personnages soient au cœur de l'action et qu'on se laisse emporter, en fait.
Bah, elle a qu'à lire du Heinlein.
C'est vrai qu'en science-fiction, on peut trouver également ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, lisez Greg Egan, c'est vachement pire.
Donc, comme vous voyez...
On peut aimer Tanner, voilà. Et Greg Egan.
Exactement.
Ouais. Il y a la préhistoire. On parle le rêve du mammouth chez Rivière Blanche. Donc, ça décrit la vie de Néandertaliens. Les Néandertals se sont partagés les terrains, tu vois, ils sont par petits groupes sur des terrains bien délimités. Et débarquent les faces plates, Cro-Magnon. Nous, quoi. Et Cro-Magnon pas gentil avec Néandertal.
Et ça, c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant. Son intrigue est vraiment axée sur cette horde de Néandertaliens.
Je ne vois pas comment la fantasy peut rentrer dans tout ça.
On ne peut écrire des histoires sur cette époque-là qu'à partir d'artefacts qu'on trouve. Donc, c'est forcément uniquement de l'imaginaire.
Oui, mais...
Maintenant, c'est sûr, tu n'as pas les clichés. Il y a de la magie, ouais. Mais bon, c'est la chamane du coin, quoi. Ouais. Il y a toujours des chamans dans les...
C'est un roman historique.
Oui, oui, elle se détache, c'est vrai, de cette fantasy. Cependant, je l'ai trouvé moins bien réussi que ceux de Mitra. Peut-être que, comme justement, on sait peu de choses sur les hommes de Néandertal, évidemment, la vie de la Horde n'est pas suffisamment précise, fouillée et développée pour qu'on s'attache au personnage.
D'accord.
Par contre, bon, d'un autre côté, tu
c'est
dis
plus
bon,
collectif.
non, t'as un personnage principal, mais je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas. D'un autre côté, c'est un Néandertal, donc on peut pas le comprendre totalement.
Oui.
Donc le prochain, c'est sur la Grèce mycénienne, et j'ai hâte de voir ça parce que, enfin, de le lire. J'ai visité les ruines de Mycène.
Bah oui.
On est des quarts de touristes, on nous trimballe d'un côté et de l'autre, mais t'as aucune notion de ce qu'était la vie à l'époque. Alors tu regardes des tombeaux. Alors à chaque fois que tu vas quelque part, on te montre des tombeaux. Donc à croire que l'humanité n'a eu d'autre activité que de mourir. Donc ben, j'ai hâte d'avoir le roman de Rachel Taner. Petite précision, bien que l'empreinte des dieux et le glaive de Mithra se situent dans le même univers ayant des personnages communs, ce sont deux romans indépendants. Toujours à partir de notre page internet lionsf.apodomatique.com, vous avez une rubrique intitulée Contact Info. Grâce à elle, vous pouvez enregistrer des commentaires. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos coups de cœur, nous les diffuserons dans le podcast.